Commençons par la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Fils de Dieu, et aujourd'hui nous voulons écouter ta parole, nous voulons écouter tes enseignements tels que nous les trouvons inscrits dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, la fin du chapitre 8. Donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'apprendre de toi, Seigneur Jésus. Je te prie que tu bénisses toutes les personnes qui écouteront ce sermon, ce message, un message qui est fondé sur toi, qui est basé sur ta parole et qui a pour but de l'annoncer avec fidélité et simplicité. Alors, aujourd'hui, pour ce dimanche, nous allons faire la lecture de la fin du chapitre 8 de l'Évangile de Matthieu. La semaine précédente, vous avez eu une prédication sur le début du chapitre 8. Le titre que vous pouvez voir sur vos feuilles du chapitre 8, c'est « Jésus guérit et purifie ». Car de fait, dans ce chapitre, nous voyons comment Jésus guérit et purifie. Et en même temps qu'il le fait, il enseigne ses disciples, les personnes qui sont autour de lui, sur ce que ça veut dire de le suivre. Nous avons vu comment il s'émerveillait de la foi du centurion romain dans l'histoire qui se trouve au verset 5 à 13. Maintenant, nous allons voir comment Jésus souligne des aspects importants de ce que veut dire être disciple. Le texte d'aujourd'hui, qui est le chapitre 8, verset 18 à 34, nous enseigne des éléments clés sur que veut dire être disciple de Jésus-Christ. Quelles sont les choses qui peuvent nous retenir ? À quoi nous sommes appelés et quel type de vie est-ce que veut dire être disciple de Jésus? Nous allons commencer par les versets 18 à 22, la première des trois petites histoires que nous avons dans cette fin de chapitre. Je vous lis maintenant les versets 18 à 22. 18. Alors, pardon, les versets 18 à 22, c'est « Comment suivre Jésus ?» C'est la préparation d'un passage sur un autre côté dans la mer de Galilée et deux disciples potentiels qui viennent voir Jésus. Je vous lis le texte. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » À travers ces premiers versets, nous avons les points clés, plusieurs points clés qui sont mentionnés par rapport à que veut dire suivre Jésus. D'abord, Jésus invite les disciples à passer sur l'autre bord. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une foule autour de lui et on pourrait croire que le but de Jésus, c'est d'avoir de la foule autour de lui. Son but n'est pas d'avoir une foule, son but est d'enseigner et de former des disciples. La foule peut parfois être utile, parfois être une gêne pour cette tâche. Dans le cas présent, cette foule l'empêchait de pouvoir enseigner et former. C'est pourquoi il invite les disciples à passer de l'autre côté, dans le lac de Galilée, qui est sur le bord de ce lac, il y avait la ville de Capernaum, dont viennent Pierre et André. Et bien sur ce lac, quand on disait passer de l'autre bord, ça voulait dire de faire une traversée, de prendre le bateau et d'aller à un autre endroit. C'est ce que Jésus va faire, une action qui a un élément symbolique. Être disciple, c'est être prêt à partir, à laisser le connu et à aller à l'aventure, comme nous allons le voir dans la suite de notre texte. Mais avant de partir, deux scribes veulent partir avec Jésus. Deux personnes, plutôt un scribe et une personne d'entre les disciples, vont poser une question à Jésus. Le premier, au verset 19, lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Alors, en français, le terme traduit « partout où tu iras » donne l'impression que nous allons avoir quelqu'un qui part et qui va à n'importe quel endroit. Le texte en grec, qui est le texte original dans la langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament, nous dit simplement que la personne est prête à monter dans le bateau et à aller où que le bateau aille. Bien sûr, c'est dans la mer de Galilée que le bateau va aller. La réponse de Jésus peut sembler surprenante. Ce disciple, ce scribe qui lui dit « Je veux te suivre », qui est une façon d'affirmer son désir d'être disciple de Jésus, d'apprendre de lui, n'est pas complètement surprenante. Au chapitre 5, 6, 7, on a eu l'enseignement extraordinaire de Jésus, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il y a déjà eu un grand nombre de guérisons, comme on les voit au verset 14 à 17, où Jésus a guéri des démoniaques et des malades. Et être disciple, la motivation du disciple, en général, n'est pas parfaite. Mais le but de l'enseignant est d'arriver à purifier cette motivation au fil de la formation. Et pour purifier cette formation, Jésus va directement dire à ce scribe, au verset 20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. » En gros, il dit à ce disciple, « Si tu espères partir d'un endroit agréable avec une maison et une sécurité, et qu'avec moi tu vas avoir une autre maison avec une autre sécurité, ne sois pas surpris. Ce à quoi j'invite mes disciples, c'est à me suivre et à dépendre de Dieu complètement, ce qui veut dire que ce n'est pas l'assurance qu'on va avoir une nouvelle vie en tant que disciple de Jésus avec les nouvelles sécurités identiques. Jésus dit « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Ce terme « Fils de l'homme », on le trouve pour la première fois dans l'évangile de Matthieu ici, nous l'avions déjà vu dans l'évangile de Marc, ensemble, et ce terme vient du livre de Daniel, le chapitre 7, les versets 13 à 14, que j'aimerais vous lire. Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. C'est une vision qui nous parle du prophète Daniel, qui était en exil dans la ville de Babylone, et voilà la vision qu'il avait eue. Verset 13. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. » À travers cette citation, Jésus dit à la personne, implicitement, qu'il est le Fils de l'homme, celui qui doit venir sur les nuées, qui va venir pour manifester son autorité complète, une autorité comme roi, une autorité sur toute la terre, toute la création. Et en même temps qu'il annonce cette autorité, Jésus annonce son humilité, le fait que cette autorité va venir, mais pour l'instant, elle n'est pas là. Pour l'instant, le Fils de l'homme est appelé à aller sans savoir où reposer sa tête. Cet élément, d'une grande simplicité, souligne l'importance, quand on commence à suivre Jésus, de ne pas s'attendre à ce qu'il couvre tous nos besoins comme nous aimerions. Nos besoins vont être couverts. Nous verrons plus tard que Jésus dit que celui qui a quitté père, mère, femme, enfant, parents, qui a quitté maison, champ, pour l'évangile, alors Dieu lui donnera famille, lui donnera une maison, lui donnera tout ce dont il a besoin pour vivre, avec aussi les persécutions, comme on le lisait dans l'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 10. Mais cette assurance est dans la marche avec Jésus. Elle n'est pas dans les biens matériels qui deviendront les nôtres. Elle est dans la grâce de Dieu qui pourvoit à chaque étape. Et nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. C'est ce que Jésus répond à cette personne en lui disant « Tu veux monter sur le bateau, un bateau qui va lâcher l'ancre, qui va partir sur la mer et tu espères que tu vas atterrir de l'autre côté et que tu auras une autre sécurité ? Quelque part, si tu pars avec moi en bateau, tu vas avoir à vivre une aventure. Et l'aventure de la foi sera plutôt comme cette expérience sur le bateau où il y a des dangers et on a à se confier en Dieu et à suivre sa direction. Et lui-même nous donnera toutes les informations nécessaires, toute la direction nécessaire pour arriver, pour avancer, pour que cette vie sur un bateau, cette vie de passage, eh bien elle soit avec une sécurité en Dieu et non pas en nous ou dans nos possessions. On a ensuite l'histoire au verset 21 et 22 d'un autre disciple qui est venu voir Jésus et qui lui a demandé juste, au verset 21, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Cette question semble, dans le monde moderne, on aurait l'impression de dire « Bon, bah, en gros, son père vient de mourir et il veut juste finir d'ensevelir son père avant de monter en bateau. » C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que cet homme est en train de dire à Jésus « Mon père est âgé » ou « Je veux prendre soin de mon père jusqu'à sa mort et ensuite je te suivrai. » À la fois, il y a le commandement de prendre soin de nos parents. Mais prendre soin de nos parents ne veut pas dire qu'on fait tout ce que nos parents demandent. C'est là qu'il y a une différence à la fois subtile et profonde. Nous ne sommes pas appelés à être des esclaves de nos parents. Nous sommes appelés à prendre soin d'eux dans la mesure du possible, mais ça ne veut pas dire qu'on remet l'obéissance à Dieu derrière. L'obéissance à Dieu est première, et être disciple de Jésus-Christ est premier. Et la réponse de Jésus, qui était choquante à l'époque et qui est choquante encore aujourd'hui, c'est « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Acceptez de ne pas tout prendre en charge. Acceptez que, en suivant Jésus, on ne répondra pas aux besoins de nos familles comme nous aimerions peut-être. Nous aurons à prendre soin de nos parents, ça fait partie des responsabilités pour certains d'entre nous, pour d'autres, Dieu donnera d'autres situations. Mais cette prise en charge ne veut pas dire que suivre Jésus est une option. Suivre Jésus, c'est le numéro un. C'est ce à quoi nous sommes appelés, parce que Jésus, tout comme nous l'avons lu dans le livre de Daniel, est le Fils de l'homme qui vient sur les nuées, qui vient pour être celui qui manifeste la royauté de Dieu dans ce monde. C'est lui le Fils de Dieu. Et rien dans ce monde n'est plus important que lui. Comme nous allons le voir déjà, sous une première forme dans l'histoire suivante, qui va être l'histoire de voir comment Jésus calme la tempête. Je vous lis le texte, les versets 23 à 27. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Cette histoire de la tempête que Jésus calme est intégrée juste après le fait que deux personnes ont dit qu'ils voulaient suivre Jésus. Donc, elle est directement reliée à l'importance d'être disciple. Et on voit comment les personnes qui sont montées dans le bateau avec Jésus sont ceux qui veulent être ses disciples. Et la formation de disciples est déjà à travers ce qu'ils vont vivre. Il va arriver une chose toute simple, une grande tempête va se lever. Le lac de Galilée était connu et est toujours connu aujourd'hui pour avoir des grandes tempêtes. Il y a le mont Hermon et il y a des vents froids qui viennent de ce mont vers la mer de Galilée et qui créent des grandes turbulences qui ont une conséquence toute simple, c'est que ça fait des grandes tempêtes. Alors, grande tempête, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous étiez sur la barque de Jésus, on a retrouvé en 1986, à peu près il y a 25 ans, une barque sur ce lac de Galilée qui est probablement de l'époque de Jésus. Elle faisait 8 mètres de long sur 2 mètres et demi de large. Donc vous imaginez que vous êtes dans cette barque de 8 mètres de long et 2 mètres et demi de large. Elle était à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 au-dessus du niveau de l'eau, le rebord sur les côtés. Donc dans cette grande barque, où on pouvait avoir tous les apôtres, les 12 plus Jésus. Dans l'évangile de Marc, on mentionne qu'il y avait d'autres bateaux avec ce bateau, donc peut-être qu'il y en avait, d'autres autour. En tout cas, imaginez-vous que vous montez dans cette barque, que vous montez, et alors que vous êtes monté, que vous avez seulement des rames, peut-être une voile, il y a une grande tempête qui se lève. Les tempêtes sur ce lac, on a mesuré des vagues qui peuvent faire plus de 8 mètres de haut. Alors les vagues, elles ont deux façons d'être mesurées. Il y a la vague de quand on la voit dans le sens où elle se propage, si elle vous arrive dessus, c'est le creux. Alors les creux pouvaient avoir jusqu'à à peu près 14 mètres de haut, 13 mètres, 14 mètres de haut. Et l'autre côté, où on voit comme si on était en train de suivre la vague qui se déferle, la hauteur était de 8 mètres. Donc en gros, c'est des vagues de 10 mètres de haut. Imaginez que vous êtes dans votre bateau avec une hauteur au-dessus de l'eau de 1 mètre de haut et que vous avez des vagues de 8 mètres de haut qui commencent à déferler. J'imagine que vous ne seriez pas fier, parce qu'avec une seule vague, le bateau peut être renversé. Aujourd'hui, les voiliers ont ce qu'on appelle une quille. Ça permet que même s'ils supportent une grosse vague qui leur rentre dedans, même si un mât est cassé, la quille, ce poids très lourd qui est en dessous du bateau, va faire rebasculer le bateau pour le remettre droit. Donc il ne va pas être coulé même avec de grandes vagues. À l'époque, ça n'était pas le cas. Si la vague recouvrait le bateau et que le bateau était rempli d'eau, eh bien le bateau allait commencer à couler. Et Jésus n'a pas dit à ses disciples, venez au verset 18 qu'on a lu précédemment, il donna l'ordre de passer à l'autre bord. Il n'a pas dit, venez, on va être coulé, venez vous noyer avec moi. Il a dit, venez, on va passer de l'autre bord. Donc, dans le commandement de Jésus, on voit qu'il a la foi qu'ils vont arriver de l'autre côté, que c'est la direction et c'est le but du passage. Mais là, c'est comme si ces vagues peuvent amener la fin du voyage, la fin de la formation des disciples, la fin de tout le groupe. Et au milieu de ce voyage, les disciples, bien sûr, sont très soucieux, très préoccupés, apeurés, effrayés, terrorisés. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort paisiblement. Dans l'évangile de Marc, on voit qu'il dort sur un coussin à l'arrière du bateau. Ici, il est juste mentionné qu'il dort. Dormir dans une tempête. C'est d'abord un signe que Jésus ne se fait pas de soucis. Jésus ne se préoccupe pas. Et dans l'évangile de Marc, on voit que quand on va le réveiller, il va d'abord calmer la tempête et ensuite il parlera aux personnes. Ici, Matthieu veut souligner l'aspect de la formation des disciples. C'est pourquoi au verset 26, Jésus va commencer par parler aux disciples et ensuite il va calmer la tempête. Certains d'entre vous vont se poser la question, bon, qu'est-ce qui est venu? D'abord les paroles de Jésus aux disciples ou calmer la tempête? Honnêtement, ce n'est pas si important que cela. Ce qui est important, c'est qu'il y ait eu probablement les deux. Et ici, ce que Matthieu veut souligner, c'est l'importance de la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il leur dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur, en gros? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Deuxième mention, gens de peu de foi. En gros, votre peur est liée à votre manque de foi. Dans l'Ancien Testament, nous parlons souvent de la crainte de Dieu. Craindre Dieu, un élément important de tout l'Ancien Testament, c'est l'enseignement que on a à reconnaître que Dieu est le créateur de l'univers et qu'il est toujours dans son œuvre de créateur à l'œuvre dans ce monde. Et que par conséquent, s'il y a une chose à craindre, c'est ce qui est le plus dangereux. Si, en général, on craint ce qui nous semble le plus risqué, le plus dangereux dans ce monde. Eh bien, Dieu, dans l'Ancien Testament, dit, s'il y a une chose ou une personne à craindre, c'est moi, parce que c'est moi qui suis aux commandes, c'est moi qui suis le Créateur. Par conséquent, si vous me craignez et que vous faites envers moi ce qu'il faut, votre plus grand souci dans ce monde sera effacé. De même, Jésus ici est en train de leur dire, vous voyez la tempête? Est-ce que vous voyez Dieu dans cette tempête? Est-ce que vous voyez Dieu au milieu de cette tempête? Et la réponse implicite, c'est qu'il y a Dieu avec eux. C'est Jésus. Et que s'il est avec eux, ils n'ont rien à craindre. Alors maintenant, c'est facile à dire, si nous étions au milieu de cette tempête avec Jésus, probablement, vous aussi, vous seriez en train de dire, peut-être moi aussi, je serais en train de dire, Jésus, t'es sûr que ça va? T'es sûr que ça va bien se passer? Tu veux pas faire quelque chose? Un peu comme Marie, la maman de Jésus, aux noces de Cana. Jésus, il n'y a plus de vin. Tu veux pas faire quelque chose? Et nous savons que Jésus a le pouvoir de faire Il a le pouvoir de guérir, le pouvoir de transformer. Et nous allons avoir toujours dans notre vie à nous apaiser dans notre relation avec Jésus. Apaiser dans la confiance que Jésus est à l'œuvre, ne pas hésiter à lui poser des questions quand nous ne savons pas, mais apprendre aussi à marcher par la foi. Ne pas croire que notre vie va être détruite par une vague, même si c'est une grande vague de 8 mètres de haut. Les grandes vagues, ça peut être un travail qu'on perd, une entreprise détruite, ça peut être un époux, une femme qui disparaît, ça peut être un enfant qui meurt, des parents qui meurent aussi. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un accident, ça peut être un vol, ça peut être une déception amoureuse, ça peut être tant de choses. Mais dans tout cela, dans toutes ces vagues qui font des fois 1 mètre de haut, 2 mètres, 3 mètres, 8 mètres, 10 mètres de haut, alors que nous sommes dans notre petite barque qui est tout juste 1 mètre au-dessus de l'eau, nous avons à nous rendre compte que Jésus est là. Que Jésus ne nous a pas abandonnés si nous ne l'avons pas abandonné, que par la foi nous marchons en tant que disciples de Jésus. La réaction de ces hommes, c'est, au verset 27, « Qui est-il ?» Parce que même les vents et la mer lui obéissent. Qui est-il? Qui est celui-ci? Et nous allons avoir un début de réponse dans l'histoire suivante, les versets 28 à 34, où Jésus va délivrer deux possédés. J'aimerais maintenant vous lire cette histoire. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Cette histoire, j'imagine, vous rappelle une autre histoire dans l'évangile de Marc. Est-ce que l'un d'entre vous se rappellerait dans quel chapitre se trouve cette histoire? Si quelqu'un peut le dire, je vous invite à le dire. Cette histoire se trouvait au chapitre 5. Peut-être Alexandre, tu t'en rappelais. Peut-être l'un d'entre vous se rappelait aussi. Et cette histoire avait une petite différence. Dans l'histoire de Marc, il n'y avait pas deux possédés, mais un seul. À travers ce que nous pouvons lire, on peut se supposer vraiment que c'est la même histoire de délivrance. Avec la seule différence qu'il y en a deux là, au lieu d'un. Alors, il y a plusieurs hypothèses que l'on peut faire. On peut se dire, si c'est la même histoire, qui correspond à la même réalité de ce qui s'est passé, peut-être que Marc, de son côté, n'avait souligné qu'un seul démoniaque qui était plus important peut-être que l'autre, qui était peut-être celui qui parlait pour les deux, et que c'était une façon de souligner l'importance du travail et du dialogue de Jésus avec cette personne, et que cette personne a voulu suivre Jésus ensuite. Bon, peut-être première hypothèse, donc s'il y en avait deux, peut-être Marc a souligné le cas d'un des deux, celui qui était le plus prominent, le plus flagrant. Autre hypothèse, c'est que chez Matthieu, on voit qu'il multiplie par deux là où on a une personne chez Marc, on a souvent deux personnes. Par exemple, pour ces démoniaques délivrés, il y en a deux chez Matthieu, alors qu'il y en avait un chez Marc au chapitre 5. Pour la question de savoir combien il y a d'aveugles, quand on a l'aveugle Bartimée, à la fin du chapitre 10 dans Marc, chez Matthieu, à la fin du chapitre 20, on aura deux aveugles. Aussi, quand Jésus va entrer dans Jérusalem, chez Marc, il y a combien d'ânes? Il y en a un. Chez Matthieu, il y en a deux, il y aura l'âne et son ânon. Alors dans les trois cas, on peut supposer que, comme on a dit là, c'était peut-être une façon de souligner qu'il y avait peut-être deux, mais celui qui était le plus important. Le démoniaque possédait le plus important, l'aveugle qui était le plus important et dont on connaissait le nom dans l'évangile de Marc, il s'appelait comment déjà cet aveugle? Oui, il s'appelait Bartimée. Donc on voit comment il y a possibilité d'avoir cet accent sur un des deux possédés chez Marc, et là on en a deux. C'est une hypothèse qui me semble correcte, donc si vous voulez, moi si on devait me dire quelle hypothèse tu choisis, je dirais peut-être celle-là. Honnêtement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous laissions enseigner par Dieu à travers ces textes, à travers ces histoires de comment Jésus agit, comment il guérit et ce que nous apprenons. Alors, ce qu'on apprend ici, les personnes se posaient la question, qui est Jésus? Au verset 29, on va avoir une réponse qui va venir d'une direction surprenante, c'est les démons qui vont dire quelque chose. Au verset 29, les démons s'écrient et ils disent « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Alors, cette mention est intéressante. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ?» Ils reconnaissent que Jésus est le fils de Dieu. Eux, ils savent. Eux, ils savent que Jésus est le fils de Dieu. Il n'est pas seulement le Messie, il est le fils de Dieu. Ensuite, il mentionne quelque chose de surprenant. « Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Cela souligne un élément, une chose que nous savons à travers d'autres textes du Nouveau Testament aussi, c'est que Jésus reviendra et quand il... Pardon, pas que Jésus reviendra. Dieu enverra son messager, ce Fils de l'homme, tel que nous le voyons dans la prophétie de Daniel que nous avons lu précédemment dans ce sermon. Que ce Fils de l'homme va venir, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va régner, toutes les nations seront soumises à lui. Cette autorité, ça sera aussi sur les puissances démoniaques. Elles seront toutes envoyées en prison, si on peut dire, toutes enchaînées. Et la limitation, leur liberté limitée dans ce monde sera complètement annulée. Et les démons, ce qu'ils sont en train de dire, c'est ça n'est pas encore arrivé, c'est pas encore le temps, on a encore un peu de temps où Dieu nous permet de survivre. Pourquoi? Probablement parce que Dieu sait qu'il peut enseigner, qu'il peut nous enseigner des choses à travers aussi ces démons, à travers les tentations que eux vont mettre dans nos vies. Dieu peut nous encourager à grandir. Certains d'entre nous ont tendance à dire « les démons ne sont pas nécessaires, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin non plus d'épreuves dans nos vies. On n'a pas besoin de souffrance. » Et si on dit ça, il faut être honnête et reconnaître que sans épreuve, sans difficulté dans nos vies, nous ne grandissons pas. Si quelqu'un va à l'école et que la personne dit « je ne veux jamais avoir d'examen, je ne veux jamais d'interrogation, je ne veux jamais de test », la certitude que vous pouvez avoir, c'est que cette personne n'apprendra rien et que, au mieux, elle ira à l'école de manière passive. Et probablement, il n'ira pas longtemps. Est-ce que ça veut dire que Dieu se réjouit qu'il y ait des démons qui nous font du mal? Non. Dieu permet aux démons de rester dans ce monde, à ce qu'il y ait des démons qui agissent dans ce monde, mais pas qu'ils dominent. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous soyons victorieux par la puissance de Jésus-Christ, en étant soumis à lui, en étant confiants en lui, afin que dans nos vies, Dieu soit victorieux. La question n'est pas de dire « je vais écraser les démons ». Les démons sont plus forts que nous. Si nous disons « je veux écraser les démons », nous sommes des imbéciles, parce que nous croyons avoir une puissance que nous n'avons pas, et nous serons seulement des personnes qui seront des échecs vivants. Par contre, si nous disons « Jésus a le pouvoir », et si moi, je me soumets à Jésus-Christ, et je le laisse régner dans ma vie, alors nous aurons toute puissance, toute autorité sur les démons, sur toute force mauvaise, et nous pourrons dire, avec l'enseignement de Jésus dans la prière du Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au mal, ne nous soumets pas à toute force mauvaise dans ce monde. Et avec Dieu, nous savons que nous pouvons marcher sans tomber dans le péché, par la grâce de Dieu, pas par nos forces. Nos forces sont très limitées. Mais la puissance de Dieu, telle que nous l'avons vue pour la tempête, les disciples, est-ce qu'ils étaient capables de calmer une tempête? Bien sûr que non. Mais Jésus, avec une parole, pouvait calmer la tempête. Et là, avec une seule parole, il va chasser les démons. Au verset 32, il dit aux démons, allez! Et les démons sortirent. Alors les démons vont sortir, vont rentrer dans les ports. On pourrait croire pour être plus à l'aise, mais leur but, c'est de détruire. Et cette contrée qui a un troupeau de porcs pour les nourrir, les gens vont demander à Jésus de partir ensuite, parce que le témoignage de Jésus pour eux, c'est que il est venu, il a détruit les porcs. Observez bien que les gens sont plus soucieux des porcs que des personnes. Souvent dans ce monde, on est plus soucieux des biens matériels. Là, c'était un troupeau de porcs qui permettait d'avoir une certaine richesse pour ceux qui possédaient ce troupeau. On peut être plus soucieux de nos biens que des personnes. Là, les deux démoniaques guéris. Dans l'évangile de Marc, on voit qu'en tout cas un des deux, ou celui dont il est fait mention en Marc, va vouloir devenir disciple de Jésus et va apprendre à rendre témoignage à l'amour de Dieu, ce qui va préparer pour le futur très proche un réveil dans cette région, et ça sera une des régions où ces démoniaques étaient, qui va devenir en majorité chrétienne très vite après la mort de Jésus, sa résurrection, et le début du ministère des apôtres. Donc, l'œuvre de Jésus n'est pas perdue. Ce qu'il a fait, il va partir. Mais rendez-vous bien compte que les personnes qui ont vu l'action, l'autorité de Jésus, vont se préoccuper plus des biens que des personnes. Et ça, c'est un enseignement pour les disciples. L'enseignement qu'ils peuvent tirer, c'est d'abord, est-ce que nous nous préoccupons plus de nos biens ou des personnes? Est-ce que nous nous soucions de nos maisons, de nos voitures, de nos travails, plus que des personnes autour de nous? Est-ce que l'évangélisation est un détail que nous essayons de faire pour être des bons chrétiens, gentils, on essaye de parler une fois ou deux? Ou est-ce que nous avons à cœur de gagner des âmes, que des personnes autour de nous qui sont tourmentées, qui sont éloignées de l'évangile, puissent l'accueillir? Et ce n'est pas la question d'avoir une personne, c'est la question de se tourner vers tout notre entourage, au travail, dans nos relations de famille, nos amis, ceux qui sont autour de nous. Est-ce que l'évangile est vraiment le cœur de nos vies? Ou est-ce qu'il est seulement à la surface? Et nous avons déjà tout un ensemble de programmes, de buts, d'objectifs qui n'ont rien à voir avec Dieu directement, qui sont au cœur de nos vies. Si c'était le cas, nous risquons un jour de dire à Jésus, va-t'en, parce que tu crées des problèmes dans ma vie, tu m'as fait perdre un bien, tel que ce troupeau de porcs, tu m'as fait perdre une maison, une amitié. Jésus veut que nous nous concentrions sur les personnes. Et en tant que disciple, l'enseignement suivant que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que quand nous manifestons la volonté de Dieu dans ce monde, nous ne serons pas toujours accueillis avec joie. Parfois, nous pourrons amener le salut dans une maison et certaines personnes de cette maison vont nous chasser ou nous insulter, nous appeler secte, horreur et nous causer des problèmes. Être disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas avoir aucun problème. Être disciple de Jésus-Christ, c'est vivre dans la vérité, vivre dans l'amour de Dieu, de sa parole, dans sa sainteté, dans sa grâce, et enraciné en lui, porter ce message de vie dont notre monde a tellement besoin. Notre monde est un monde en perdition, tout comme le monde au temps de Jésus. Notre monde est un monde en perte de repères, à travers la globalisation, à travers tous les changements que nos vies que nous voyons dans nos vies, nous pouvons apporter une base stable, Jésus, afin qu'au milieu des tempêtes, face à des forces maléfiques, nous puissions être paisibles, avec une autorité qui vient de Dieu, une autorité paisible et forte qui nous permettra de nous enraciner, afin que nous soyons disciples de Jésus-Christ. L'histoire que nous avons lue aujourd'hui, depuis les versets 18 jusqu'au verset 34, nous a montré que être disciple, c'était ne pas se soucier où on va dormir, d'abord, Donc ne pas se soucier des biens matériels en premier. Prendre soin des choses est important. On n'est pas censé être des personnes qui vivent comme des oiseaux, on est censé être des personnes qui vivent comme des enfants de Dieu, qui vont suivre là où Jésus nous mène. Mais dans cette démarche, il faut s'appuyer d'abord sur ce que Dieu veut et non pas sur ce que nous voulons, et apprendre à discerner la volonté de Dieu paisiblement et simplement. Peut-être seul, peut-être avec des frères et sœurs en Christ qui ont plus d'expérience pour qu'on apprenne à reconnaître la volonté de Dieu. C'est aussi laisser notre vie passer derrière nous, comme être disciple, comme on a vu Jésus qui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts ». Être disciple de Jésus, c'est aussi monter dans la barque, monter dans cette aventure, entrer dans cette aventure d'être disciple, être prêt à larguer les amarres, à vraiment faire confiance à Jésus, et s'il y a des tempêtes qui se lèvent, se tourner vers lui, comme les disciples l'ont fait, et si possible, se tourner vers lui toujours plus avec foi et confiance. Et enfin, être prêt à manifester l'autorité de Jésus dans ce monde, face aux forces mauvaises qu'il y a, et être prêt à être rejeté, comme Jésus va être rejeté de ce territoire. Alors que nous finissons ce temps avec cette prédication, j'aimerais vous poser la question. Êtes-vous disciple de Jésus-Christ? Avez-vous dit oui à tous ces éléments que nous avons vus aujourd'hui? Que nous avons pu découvrir dans le texte d'aujourd'hui? Êtes-vous pleinement disciple de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous avez à remettre? Dans votre semaine, peut-être, qui vient de se passer, ou dans la semaine qui vient, qui est importante. Si c'était le cas, ne perdez pas de temps. Il ne sert à rien de perdre son temps. Jésus est le Seigneur de la vie, celui qui donne sens à nos vies, qui nous donne la seule stabilité que nous trouverons jamais, afin que même au milieu des tempêtes, nous ayons la paix, afin que face aux forces du mal, nous ayons l'autorité de Dieu, afin que nous puissions avancer avec lui. J'aimerais vous remettre maintenant un temps de prière, vous donner un temps d'une minute, qui n'est pas le seul temps à prendre dans la prière, mais simplement pour que vous puissiez, vous, dans votre cœur, avoir une prière silencieuse, de réponse à cet appel de Jésus, à être disciple avec tout ce que vous êtes. Où est-ce que vous en êtes? Où en êtes-vous pendant cette semaine qui vient de se passer? Où est-ce que Jésus vous mène? Où est-ce que la barque de Jésus vous invite à avancer? Prions ensemble maintenant. Seigneur Jésus, nous te remettons ce temps, une minute, brève, pour que chacun qui a écouté ce sermon puisse te répondre, répondre à ton appel que tu nous donnes à travers ces textes simples et profonds. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton appel. Tu nous appelles à la vie, tu nous appelles à l'aventure de la vie, une vie riche d'amour, de vérité, de sainteté, une vie avec toi, une vie d'amour de notre prochain, une vie qui a du sens, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de bénir mes frères et sœurs ici, à l'île de la Réunion, dans notre petite église. Bénis Frédéric, Laurence, bénis Anise, bénis mes fillettes, Seigneur Jésus-Christ, bénis Alexandre, Juliette, Pierre, bénis Dominique, bénis Colline, bénis Rémi aussi, ainsi que ses enfants, bénis Anton qui est reparti en Afrique du Sud. Bénis chacune des personnes ici présentes, et que ce soit à Paris, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, donne-nous, Seigneur, de pouvoir avancer toujours plus en étant tes disciples, simples et confiants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bénis Colline.